Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, l'historien Christopher Herr. Browning étudie une unité de la police d'ordre allemande engagée dans le meurtre de masse et les déportations de juifs polonais en 1942-1943. Fondée principalement sur les témoignages judiciaires d'anciens membres du bataillon, l'ouvrage relève de l'histoire de la Shoah, de l'histoire sociale des auteurs de violence et de l'analyse des mécanismes de l'obéissance. Browning refuse d'expliquer leurs crimes par la seule image de fanatiques exceptionnellement cruels. Il montre comment des hommes souvent âgés, issus de milieux populaires ou petits bourgeois, ont pu devenir les agents directs de la solution finale. Sans dissoudre leurs responsabilités individuelles, il examine les pressions du groupe, la hiérarchie, la guerre, l'antisémitisme et l'accoutumance à la violence. Cette micro-histoire d'un bataillon éclaire ainsi les rouages concrets d'un génocide administré, organisé et exécuté par des individus ordinaires placés dans un système meurtrier. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bataillon 101 comme étude de terrain de la destruction des Juifs de Pologne. Browning choisit une échelle volontairement resserrée, celle du 101e bataillon de réserve de la police allemande, composé d'environ 500 hommes et déployé dans la Pologne occupée. Ce choix permet de suivre la mise en œuvre de la politique génocidaire au plus près de ses exécutants. Le livre ne traite donc pas la Shoah uniquement comme une décision prise au sommet de l'État nazi, ni comme un processus abstrait d'administration et de transport. Il décrit comment les ordres se traduisaient dans les villages, les ghettos, les rafles, les convois et les fusillades. Les hommes du bataillon participèrent à des massacres de proximité, ainsi qu'à des opérations de déportation vers Treblinka. L'exemple de Joseph Uff, en juillet 1942. Occupe une place centrale des Juifs, y furent séparés, conduits hors du village puis assassinés à bout portant, tandis qu'une minorité était affectée au travail forcé. Cette focale montre que l'extermination ne dépendait pas seulement des camps, elle reposait également sur des unités capables d'identifier, rassembler, garder, transporter et tuer. La force historique de l'enquête tient à cette articulation entre le cadre général de la solution finale et la réalité matérielle des opérations locales. Le bataillon devient ainsi un observatoire précis de la transformation d'une police de réserve en instrument de persécution et de meurtre de masse. Deuxièmement, des hommes ordinaires sans excuse comprendre les auteurs sans les absoudre. La thèse la plus connue de Browning est aussi la plus exigeante, les membres du bataillon ne correspondent pas majoritairement aux stéréotypes de jeunes fanatiques nazis, sélectionnés pour une haine raciale particulièrement intense. Beaucoup étaient des réservistes d'âge mûr, originaires notamment de Hambourg, avec des parcours antérieurs relativement ordinaires. Mais qualifier ces hommes de « ordinaires » ne signifie jamais qu'ils furent innocents, passifs ou dépourvus de choix. Le titre désigne le problème que le livre veut affronter des individus socialement banals, peuvent-ils commettre des crimes extrêmes? Browning répond en refusant deux simplifications opposées. La première ferait des auteurs des monstres incompréhensibles, séparés de toute humanité commune. La seconde les présenterait comme de simples automates sans responsabilité. Son analyse maintient ensemble contexte et responsabilité. Les possibilités de se soustraire à certaines tâches, sans être systématiquement punis de façon grave, montrent qu'une marge de décision existait. Pourtant, la plupart continuèrent à participer. Cette constatation rend l'étude plus dérangeante, l'atrocité ne fut pas uniquement imposée par une contrainte immédiate et irrésistible. Elle fut aussi rendue possible par des accommodements, des renoncements et des décisions répétées. L'ouvrage invite donc à étudier les conditions qui facilitent le crime collectif sans transformer l'explication en justification morale ou juridique. Troisièmement, obéissance. Conformisme et pression des pairs dans la participation au meurtre, Browning analyse plusieurs mécanismes qui ont favorisé la participation des policiers, sans les réduire à une cause unique. La discipline hiérarchique et l'habitude d'obéir aux ordres comptent, mais elle n'épuise pas l'explication. Dans une unité soudée, refuser une tâche meurtrière pouvait être perçu comme l'abandon d'un devoir pénible laissé aux camarades. La pression la plus efficace n'était donc pas nécessairement une menace explicite de sanction, elle pouvait prendre la forme du regard des pairs, de la peur d'être jugé faible ou lâche et du désir de préserver sa place dans le groupe. Le livre mobilise avec prudence les acquis de la psychologie sociale, notamment les réflexions sur l'obéissance à l'autorité, pour éclairer ce cadre lyrique plutôt que pour le remplacer par une expérience de laboratoire. Browning insiste aussi sur l'adaptation progressive au rôle. Des tâches initialement choquantes, surveiller une rafle, escorter des victimes, tirer, peuvent être réparties, normalisées et intégrées à la routine du service. La division du travail atténue la perception de la responsabilité personnelle, même lorsque certains hommes accomplissent directement les tirs. Cette combinaison d'autorité, de solidarité de groupe, de spécialisation et d'accoutumance explique pourquoi une large part du bataillon exécuta les missions reçues. Elle ne prétend pas que tous agissaient avec les mêmes convictions, mais elle montre comment une organisation peut rendre la violence collectivement praticable. Quatrièmement, une gradation des comportements volontaires exécutant routiniers et rares évitements. L'un des apports les plus nuancés de l'ouvrage est de ne pas décrire le bataillon comme un bloc humain uniforme. Browning distingue, dans les limites des sources disponibles, plusieurs attitudes. Une minorité manifesta un zèle particulier et se porta volontiers vers les tâches meurtrières. Un groupe plus large accomplit les missions demandées de manière fiable, sans nécessairement chercher à les intensifier. Enfin, quelques hommes évitèrent certaines formes de participation directe ou demandèrent à être écartés. Cette différenciation est essentielle pour deux raisons. D'abord, elle invalide l'idée que tous les policiers auraient été contraints de façon identique et inéluctable. L'existence de refus ou d'évitement indique que d'autres conduites étaient possibles. Ensuite, elle évite de confondre absence d'enthousiasme et opposition réelle. Ne pas prendre plaisir à tuer ne suffit pas à rompre avec une institution qui organise la persécution et le meurtre. Beaucoup continuèrent à contribuer aux opérations par d'autres fonctions. Browning met ainsi en évidence un continuum de complicité, allant de l'initiative meurtrière à l'obéissance routinière et de l'évitement partiel à une dissidence limitée. La distinction aide à penser la responsabilité de manière plus précise. Elle révèle également l'efficacité sinistre du dispositif, la faible proportion d'hommes qui se dérobèrent ne désorganisa pas les opérations. Car le groupe majoritaire et les volontaires suffisaient à maintenir la capacité de destruction du bataillon. En dernier lieu, les sources judiciaires et les limites d'une histoire fondée sur les témoignages d'anciens policiers. L'enquête de Browning s'appuie largement sur des dépositions recueillies après-guerre auprès d'anciens membres du bataillon, notamment dans le cadre d'enquêtes et de procédures judiciaires ouest-allemandes. Cette documentation permet de reconstituer les opérations, les chaînes de commandement et les justifications avancées par les participants. Elle donne surtout accès aux manières dont les auteurs racontent, minimisent, reconnaissent ou déplacent leurs responsabilités des années après les faits. Mais Browning ne traite pas ces témoignages comme une parole transparente. Les déclarants ont pu oublier, se protéger, attribuer les décisions à des supérieurs ou présenter leur comportement sous un jour plus favorable. L'historien confronte donc les récits et les replace dans la chronologie des opérations, tout en tenant compte de leur silence et contradictions. Cette méthode est au cœur de la valeur du livre, il ne propose pas une explication psychologique reposant sur une intuition générale, mais une interprétation bâtie à partir d'archives imparfaites et d'une comparaison attentive des versions. La prudence critique est particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit des motivations qui ne se laissent pas réduire aux déclarations tardives des intéressés. L'ouvrage montre ainsi ce que peut produire une histoire des perpétrateurs rigoureuses, ni acceptation naïve de leurs auto-justifications, ni refus de les étudier. Comprendre leur discours devient un moyen d'analyser la banalisation rétrospective du crime et les stratégies d'effacement de la culpabilité. En conclusion, des hommes ordinaires s'adressent en priorité aux lecteurs d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, aux étudiants en histoire, en sciences politiques ou en psychologie sociale, ainsi qu'à toute personne souhaitant comprendre les mécanismes concrets de la violence collective. La lecture est éprouvante, car Browning ne détourne pas le regard de la matérialité des fusillades, des rafles et des déportations. Elle est toutefois intellectuellement indispensable, elle apprend à distinguer l'explication historique de l'excuse et à examiner comment une institution, une guerre d'occupation et un groupe peuvent rendre le crime massif exécutable par des individus qui ne se conçoivent pas nécessairement comme des criminels exceptionnels. Le livre se distingue des synthèses générales sur la solution finale par sa méthode de micro-histoire. Au lieu de rester au niveau des dirigeants nazis, des grandes décisions administratives ou des seuls camps d'extermination, il suit une unité identifiable et met en relation ses actes avec les trajectoires et les comportements de ses membres. Cette précision donne une portée plus large à l'analyse, elle éclaire la place de la police d'ordre dans le génocide et interroge les ressorts ordinaires de la complicité. Browning évite à la fois l'image rassurante de monstres radicalement autres et le déterminisme qui nierait toute décision personnelle. C'est cette tension, solidement fondée sur les sources et maintenue sans simplification, qui fait de l'ouvrage une référence durable pour penser la responsabilité individuelle au sein des crimes d'État. Si vous souhaitez soutenir Christopher R. Browning, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!